France Musique.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Y a du café?
Ouais, du café. J'arrive.
La folle journée de Nantes, où France Musique a une fois de plus planté ses micros. Nous sommes donc en direct depuis les studios. Le grand hall de la Cité des Congrès est encore un peu désert, à l'exception de nos invités. D'abord Jean-Yves Patte, que je salue, qui nous a fait l'amitié de partager un peu plus longuement ses archives ce matin.
Bonjour Jean-Yves. Bonjour à tous.
Pour le portrait, nous sommes en compagnie du musicologue nantais Patrick Barbier. Bonjour Patrick.
Bonjour Dominique.
Dans le reportage, Jean-Baptiste Urbain nous fera découvrir les ateliers de transcription initiés lors de la folle journée à destination de musiciens pas tout à fait classiques. Puis à 8h20, ce sera la chronique de la Maison Ronde de Marie Fauché. À 8h30, vos archives naturistes, Jean-Yves Patte. Et à 8h45, le souvenir musical d'une jeune nantaise, Hélène Novokchine, qui vient en direct nous le raconter.
Quelle folle journée! 24 heures avec France Musique à la Cité des Congrès de Nantes.
Bonjour Patrick Barbier.
Bonjour Dominique.
Alors si on lit un petit peu votre biographie, on se rend compte que vous avez écrit, Patrick, un livre Histoire des Castrats, un autre sur Farinelli, La Maison des Italiens, La Venise, Naples, et puis le dernier qui vient de sortir, c'est Voyage dans la Rome baroque. Vous avez un tropisme italien peut-être?
Oui, bien sûr, ça c'est très net, hein, puisque en plus moi je suis vraiment italianiste de formation, et donc en fait j'ai toujours rejoint dans tous mes livres ma passion pour l'Italie avec ma passion pour la musique. Alors en général pour le baroque.
Oui, ça marche assez bien. Hein.
Ah bah oui, mais ça fonctionne très bien. Et justement, après avoir traité Venise et Naples, il me semblait qu'il y avait une troisième grande capitale du baroque italien qui était Rome, et il fallait absolument la traiter puisque ce sont trois villes différentes dans trois pays différents à l'époque, il ne faut pas l'oublier.
Voilà. Alors nous allons la traiter pour commencer en musique, si vous voulez bien. Alors nous avons un tout petit problème, nous n'allons pas pouvoir tout de suite peut-être écouter cette musique que vous avez choisie, car nous allons faire votre portrait en musique, mon cher Patrick.
Avec des coups de cœur.
Avec des coups de cœur. Alors ce premier coup de cœur que nous allons peut-être réussir à entendre, eh bien c'est une musique de Leonardo Vinci.
Voilà, c'est-à-dire que c'est en fait, lui est un compositeur napolitain, mais si je l'ai choisi, c'est parce que d'abord c'est un air que j'adore, et d'autre part parce qu'il a été créé à Rome justement, dans ce contexte de la Rome baroque du début du 18e.
Alors cet air, c'est « Vo solcando un mar crudele ».
Oui, c'est-à-dire, en fait, ce sont toujours ces airs de comparaison où le chanteur se compare à une mer déchaînée, à une tempête, qui est une métaphore de ce qu'il a dans le cœur, bien entendu.
Musique des passions.
Et Franco Fagioli chante ça absolument admirablement, et c'est vraiment caractéristique de l'opéra créé à Rome, avec une...
Oh. Barbier, donc cette production dépend beaucoup de ce chanteur, alors.
Elle
c'est ce que
beaucoup
vous nous racontiez.
Oui, Franco Fagioli a permis qu'on crée cet opéra, parce qu'à Rome, aucune femme n'avait le droit de chanter sur scène. Et donc, il n'y avait que des castrats dans tous les rôles d'hommes et dans les rôles de femmes. Donc aujourd'hui, on a voulu refaire une production purement masculine, comme à Rome en 1730. Donc il fallait des contre-ténors, mais dont un qui puisse monter si haut jusqu'à des contrutes, qui était une chose que faisait le castrat Carestini à l'époque. Et c'est Franco Fagioli qui a permis de chanter ce rôle. Et voilà comment on a pu recréer l'Artaser, c'est jamais donné depuis 1730.
Donc avec cette voix sublime, c'est le concerto Köln qui est dans cette version. À Rome, pas de femmes donc. Alors, pas de femmes sur scène, pas de femmes à l'église.
Alors à l'église, nulle part dans le monde catholique, mais ça c'est clair. Mais en revanche, dans tous les théâtres d'Europe, les femmes pouvaient monter sur scène, sauf à Rome. Parce que c'est vrai que cette Rome que je raconte dans le livre, c'est une Rome fascinante, absolument éblouissante, mais alors d'une mise misogynie pas croyable, et ça c'est vraiment dû au siège de la papauté. Donc les femmes n'ont pas le droit de monter sur scène. Dans les ballets, il n'y a que des hommes qui chantent les rôles de première ballerine, donc déguisés en femmes, et même les marionnettes féminines sont interdites, pour ne pas donner de mauvaises pensées aux prêtres qui sont dans la salle.
Voilà une bonne chose. Alors nous, vous allez avoir plein de mauvaises pensées ce matin, grâce à Cécilia Bartoli qui interprète votre deuxième choix.
Cedete, apri le porte, cedete, cedete, cedete. ci vive vittoria, che della sua vittoria voi siete primo. Cedete, re dell'aria, che della sua vittoria voi siete primore, voi siete primore, voi siete primore.
Hein, ce que Cécilia Bartoli arrive à faire le matin.
Elle a la voix impeccable le matin.
Impeccable, je ne sais pas comment elle fait. Et là, elle est en compagnie des musiciens du Louvre Grenoble que dirige Marc Minkowski pour chanter cet air de l'ange extrait de l'oratorio La Résurrection de Handel.
Voilà.
Donc un de vos choix, Patrick Barbier, lié peut-être à ce voyage dans la robe baroque que vous venez de publier.
En effet, parce que cet oratorio de Handel a été créé à Rome, parce qu'il ne faut pas oublier que Handel s'est formé en Italie, il avait 21-25 ans, et tout ce qu'il a engrangé là va lui servir ensuite pour la grande époque londonienne. Et cet oratorio est créé dans le palais du marquis Ruspoli à Rome le jour de Pâques, puisque c'est précisément la résurrection, 1708. Et il y a une anecdote assez amusante, c'est que ce jour-là, donc le Handel et puis le marquis ont décidé de confier le rôle de Marie-Madeleine à une femme, parce qu'on est en privé dans un palais, donc pas de problème. Et alors Margarita Durastanti, grande soprano de l'époque, crée le rôle de Marie-Madeleine. Mais un petit malin va prévenir le pape, qui est furieux qu'on ait pris une femme dans un rôle dans la musique sacrée. Et comme on doit redonner l'oratorio le lendemain, le pape fait immédiatement interdire qu'elle chante le lendemain. Et donc en quelques heures, un castrat va apprendre le rôle de Marie-Madeleine pour sauver la mise.
Jolie histoire. Patrick Barbier, il faut quand même rappeler que vous avez des liens anciens avec les Folles Journées de Nantes parce que tous les ans, grâce à vous, lycéens et collégiens n'échappent pas au thème qui est proposé par la Folle Journée. Enfin, c'est une façon de parler.
Oui, mais c'est vrai, c'est depuis la première Folle Journée. C'est une idée de René Martin qui m'avait évidemment demandé d'écrire à l'époque, c'était Mozart la première, hein, un spectacle qui pourrait séduire ou, disons, intéresser des collégiens et des lycéens pour les introduire mieux à la personne de Mozart, mais à l'idée de la Folle Journée. Et voilà, depuis 22 ans, j'écris chaque année un spectacle nouveau. Il faut à chaque fois trouver une idée nouvelle, évidemment. Cette année, je l'ai situé, évidemment, nature oblige, dans l'esprit de la COP21. Mais voilà, deux comédiens vont en effet à la fois parler des œuvres, parler des compositeurs, de façon très amusante, mise en scène par Pierre Lebrun. Et deux troupes tournent dans tous les pays de la Loire et on touche des milliers de collégiens et de lycéens pendant un mois avant la Folle Journée.
Alors dans l'air suivant que vous avez choisi, cet air de Rossini, il est question aussi de nature puisque c'est la romance du Saul de Desdémone.
«
Quelle belle version, Patrick Barbier, de cet air, de cette romance du soul, ce chant de Desdémone dans l'Othello de Rossini. C'est la voix de Frederica von Stadt,
oui,
que vous trouvez belle.
Ben, je trouve très belle, d'abord parce que c'est une magnifique interprète dans ce rôle. D'autre part, j'ai une grande passion pour Rossini et qu'en plus cet air me rappelle deux femmes exceptionnelles à qui j'ai consacré à l'une et à l'autre une biographie, Lama Libran et sa sœur Pauline Viardot, qui toutes les deux se sont illustrées à travers toute l'Europe
avec cet air. C'était les tubes de l'époque.
Oui, c'était vraiment le tube de l'époque, parce qu'à l'époque, le Barbier de Séville et Othello, c'était les deux opéras de Rossini les plus joués dans toute l'Europe. Aujourd'hui, le Barbier de Séville est toujours très à la mode, mais Othello a un petit peu disparu. Donc je voulais rendre un peu un hommage à cette romance du soul qui fait qu'on a peint la Malibran, on a gravé, enfin vraiment dans ce rôle, il y a énormément de portraits. La Malibran s'accompagnait à la harpe en chantant, et elle pleurait aussi en chantant, et quand on lui cet air, parce que c'est un air terrible, puisque Desdémone sait qu'elle va mourir. Et alors on lui disait, mais pourquoi, comment faites-vous pour pleurer en chantant comme aussi facilement? Et elle disait, mais j'ai tellement été frappée, battue par mon père quand il me donnait les leçons quand j'étais petite, j'ai tellement pleuré en apprenant le chant qu'aujourd'hui ça vient tout seul.
Battez vos enfants, quelle jolie philosophie, pour qu'ils deviennent de grandes chanteuses. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Patrick, donc, c'est que non seulement vous créez ce spectacle pour tous ces jeunes, ici à la Folle Journée, mais on vous voit quand même au concert. Hein.
Oui,
vous avez le temps, vous trouvez le temps de venir à quelques concerts.
Oui, bien entendu, parce que je donne 4 conférences ou même 5 conférences en 5 jours. Mais enfin, ça me laisse quand même du temps pour aller au concert. Et j'aime bien justement aller découvrir. Alors bien sûr, réentendre des choses que j'aime particulièrement. Dieu sait qu'il y a le choix dans cette Folle Journée. Mais j'aime bien aussi découvrir des choses nouvelles. Et cette Folle Journée nous montre aussi parfois des musiques du monde qui parlent
cette
de
année,
la nature.
Oui, c'est assez,
nouveau
et original.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'aller entendre l'orchestre andalou de Jérusalem qui chante ou qui joue, les deux d'ailleurs, sur le thème des sables et donc du paysage arabe, ou bien ces japonais qui font avec ce qu'on appelle le taiko, ces énormes percussions japonaises, quelque chose qui est entièrement lié à la nature et à ce japonais qui a construit
et
des forêts,
matières,
qui
oui.
a planté des forêts en Corée. Bon, voilà. Ce sont des choses que j'aime aller écouter pour justement un petit peu sortir aussi de ce qui est mon lot quotidien.
Oui, enfin, vous ne dédaignez pas vos
non,
classiques.
Bien entendu.
Et votre choix suivant, c'est Tchaïkovski.
Thank you.
pianiste Jonas Vito qui va faire sortir, qui va publier le mois prochain, aux éditions Mirare, cette intégrale des saisons de Tchaïkovski, très jolie petite partition qu'on connaît mal.
Qu'on connaît mal, et c'est vraiment, alors je suis moi aussi un fou de Tchaïkovski, vous aurez comme ça su toutes mes passions, le baroque, Rossini, Tchaïkovski, et je trouve que cette œuvre justement mérite d'être mieux connue. 12 mois dans l'année, donc 12 pièces écrites chaque mois par Tchaïkovski pour un journal de Saint-Pétersbourg avec un supplément détachable. Et ce sont 12 états d'âme, 12 moments poétiques qui traduisent à la fois les joies et les mélancolies des différentes saisons.
On finit aussi sur une note un peu poétique avec ces Enigma Variations.
Oui, oui, alors ça c'est moins, c'est peut-être, ça peut paraître étonnant comme choix, mais il faut pas non plus renoncer à se faire plaisir de temps en temps avec cette mélodie absolument fabuleuse d'Elgar, lyrique au possible, qui est précurseur de toutes les musiques de films du XXe siècle.
C'est le London Symphony Orchestra dirigé par Sir Colin Davis qui interprétait cet extrait des Enigma Variations d'Elgar. C'est Nimrod que vous avez choisi.
Oui, parce que ça c'est une page sublime d'Elgar, tout à la fin du 19e. Déjà toute la musique de film du 20e est déjà là avec sa poésie et son lyrisme.
Merci beaucoup Patrick Barbier d'être venu ce matin si tôt
Merci
nous rejoindre.
Vous.
Je rappelle donc la parution de votre dernier livre qui s'appelle Voyage dans la Rome baroque, le Vatican, les princes et les fêtes musicales et qui est paru chez Grasset.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup. Thank you. Alors là, on aura reconnu votre patte, Jean-Yves.
Eh ah, oui,
on ne vous l'a jamais faite, celle-là.
Non, jamais. Ma patte de l'ours, même.
Votre patte de l'ours. Qu'est-ce que c'est que cette musique, alors?
Eh bien, c'est une musique américaine qui nous revient dès la fin du 19e, au travers des cakewalk, puis des ragtime, avant qu'on découvre le jazz au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, on redécouvre cette espèce d'immensité sauvage et de variété qui vient des États-Unis, alors que l'Europe avait pensé avoir domestiqué tout son monde.
Alors là, c'est le pas de l'ours.
Le pas de l'ours d'Irving Berlin. On se promène dans les forêts et ciel, un ours.
Oui, ça c'est...
Donc on s'enfuit.
Enfin non, c'est pas ciel, un ours, c'est ciel, l'orchestre de la garde républicaine.
Oui, bien sûr, qui remet tout ça d'aplomb.
C'est un disque aérophone à Saphir, Paris, vers 1910.
Et c'est une rareté.
La folle journée, ce sont des dizaines et des dizaines de concerts jusqu'à demain soir, ici à la Cité des Congrès de Nantes, avec des artistes prestigieux, des solistes, des ensembles de musique de chambre, des orchestres. Mais la folle journée propose aussi des concerts donnés par des musiciens amateurs. Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Dominique.
Alors depuis 10 ans, à chaque édition, la folle journée propose des concerts avec des groupes de musiques actuelles. De quoi s'agit-il exactement, Jean-Baptiste ?
Eh bien, ce sont des groupes de musiciens qui sont issus de différents quartiers de la ville de Nantes et de l'agglomération. Ils puisent dans le thème de la folle journée, donc cette année, la nature. Ils choisissent un ou plusieurs thèmes classiques et ensuite ils vont le transcrire, ils le transforment dans leur style à eux. Alors, ils sont accompagnés d'un professionnel. Il y a eu, les années précédentes, les pianistes Alphonse Semain, Jean-Frédéric Neuburger.
Cette année, m'en souviens très bien.
Par exemple, cette année, c'est le contrebassiste Raphaël Schwab. Alors, le concert ici à la Cité des Congrès de Nantes a eu lieu mercredi soir dans la salle 800, archi pleine. Mais avant, pour ces jeunes musiciens, c'est plusieurs mois de travail. Et justement, eh bien, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines précisément, je me suis glissé lors de l'une de leurs dernières sessions de travail dans une maison de quartier de Nantes. On y va, Dominique ?
Avec plaisir.
Il y a des trucs super, mais à un moment, et ben tu te poses plus la question, je crois, du rythme simplement de ce que tu fais, et du coup tu te retrouves à faire rythmiquement toujours un peu la même phrase.
Attention, puis après.
Le premier de tout à l'heure était plus, à mon avis. Mais bon,
okay.
C'est cool. Mais c'est mieux.
Je m'appelle Raphaël Schwab. Je suis musicien, je suis contrebassiste. Je fais beaucoup de jazz. Je fais un peu de musique classique aussi. En tout cas, c'est une musique que je connais bien. L'atelier de transcription, donc c'est René Martin qui a imaginé ça. Il s'agit pour les musiciens des maisons de quartier de Nantes de musique actuelle, donc musique actuelle amplifiée, qui font un peu de tout, un peu de rock, un peu de rap, d'adapter dans leur style des morceaux du répertoire classique, romantique et même contemporain, ou baroque, enfin voilà, en se basant sur des enregistrements a priori classique. Souvent, ils lisent pas la musique du tout, mais donc il s'agit d'abord de faire un travail de transcription réellement, et ensuite d'adaptation vraiment dans leur style. C'est assez complet, quoi. Et puis ça les ouvre sur des musiques qui sont pas obligatoirement l'habitude d'écouter. Et on essaie à chaque fois de choisir des musiques du répertoire du thème de la folle journée.
Là, par exemple, le groupe qu'on vient de voir, alors qui sont-ils? Vous les avez découverts quand?
Alors là, on a vu un groupe qui s'appelle Bubsy Crew. Ils ont choisi un morceau de Claude Debussy qui est pas du tout simple, qui s'appelle Le Prélude à l'après-midi d'un faune. Ensuite, ils en ont tiré quelques phrases qu'ils ont adaptées. C'est vrai qu'on reconnaît pas toujours, mais c'est pas le but non plus obligatoirement de reconnaître le morceau. Mais ça leur a permis, mine de rien, d'écouter d'autres choses aussi. C'est ça qui peut être intéressant, je crois.
Ça se passe comment, le travail ?
Et au départ, en fait, je crois que mon rôle, c'est de leur donner des pistes pour pas se perdre déjà, parce que certains de ces groupes jouent ensemble depuis très longtemps, d'autres moins, mais il est rare qu'ils doivent bosser avec une contrainte. Donc là, ils ont vraiment une contrainte de répertoire, et ils ont une contrainte de temps, c'est-à-dire qu'ils ont une échéance, ils ont 4 concerts à faire là, pour la folle journée. Au début, je les pousse un petit peu pour leur donner des pistes d'organisation déjà, faire des plans, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance des fois à ne pas savoir tout simplement par quel bout commencer, quoi. C'est très compliqué. Bien sûr, je les aide pour le travail d'adaptation vraiment à trouver les phrases mélodiques, des fois même les notes, le rythme, enfin voilà. Ensuite, essayer de m'adapter à tous les niveaux aussi, enfin à tous les instruments, c'est pas toujours évident. Mais alors, ils sont tout à fait libres de détruire totalement le morceau et de qu'on le reconnaisse absolument pas, même. Ou bon, il faut quand même que la contrainte soit respectée, c'est-à-dire qu'il y ait des vrais bouts qui soient utilisés. Mais après, ils peuvent prendre un bout d'une œuvre et un bout d'une autre œuvre qui n'a strictement rien à voir et les coller ensemble. Il y a des groupes qui vont coller 3 à 4 œuvres. J'ai déjà vu dans d'autres années des groupes qui avaient fait des espèces de zapping d'œuvres où il y en avait presque une dizaine en tout. C'est vraiment rigolo aussi. Je débarquerai des arbelettes, des balles de verre dans tous les éléments, des chaînes derrière ces lettres. C'est comme une exorbitant le temps passé dans la mémoire des chaînes. Et les jours s'écoulent sur l'asphalte, le vide du rayon à la place des étoiles. Alors que le matin s'installe petit à petit, la vie m'en contrepoise, son étrange spectacle rassemble. La vie se dessine dans le ciel, autour de précipices en fond. Tracé comme un phénomène dans lesquels les rêves accroissent, les êtres proches le fond. J'ai les deux pieds sur le sol.
Je m'appelle Arnaud, je suis violoncelliste du groupe.
Quentin, oboïste.
Baptiste, bassiste.
Dylan, rappeur.
Et le groupe s'appelle
Bubsy Crew.
Vous existez depuis combien de temps?
Je dirais 2 ans et demi approximativement.
Voilà. C'est rare qu'il y ait un groupe avec du hautbois et du violoncelle qui soit un groupe de rap.
Alors ouais, parce qu'on vient absolument pas du rap. Pour ma part, j'en écoutais même quasiment pas avant de commencer le groupe. Et c'est un peu Dylan qui m'a fait découvrir tout cet univers et j'ai remarqué qu'il y avait des choses très très intéressantes musicalement qui s'y passaient. Pour le coup, l'idée de mêler un peu des instruments classiques qu'on n'entend pas forcément dans d'autres styles de musique avec quelque chose qui est très urbain, ça nous a paru une bonne idée, quoi, un bon concept. Je touchais pas du tout à autre chose que du classique avant d'avoir 16-17 ans.
Bon, c'est un peu pareil, on a eu... des petits projets comme ça, pour s'amuser avec des amis, mais sinon c'est vrai qu'on restait quand même dans le cadre de la musique classique avec nos instruments. C'est pas quelque chose de courant, comme vous le disiez, d'avoir ce genre d'instrument dans un groupe de musique actuelle.
Vous avez fait comment pour choisir le thème?
Alors, donc, le morceau qu'on a choisi, c'est le prélude de l'après-midi d'un faune de Debussy. On avait une liste de morceaux à choisir et on l'a choisi un petit peu hors liste parce qu'on ne trouvait pas spécialement de morceaux qui nous plaisaient. Il y avait beaucoup de choses avec des thèmes très connus. On voulait choisir quelque chose d'un petit peu moins connu, peut-être quelque chose d'un petit peu moins identifiable, quelque part, pour pouvoir en faire peut-être un peu plus qu'on voulait, justement. Et donc on a choisi ce morceau-là, on est tombé dessus complètement par hasard. On recherchait des morceaux comme ça sur Internet et on est tombé dessus, ça nous a plu, donc... Et au final, bah, ça a plutôt pas mal avancé, même si au début ça a été un peu compliqué.
Bonjour, Florian. Donc, on fait partie du groupe Easy. On est la Formula 2 en fait, le groupe Easy. Nous sommes 5. Donc, c'est juste que c'est un projet à géométrie variable. Il y a des formules à 4, à 5, à 2. Voilà, pour c'est une sorte, on va dire que c'est quand même un peu comme un collectif, quoi. On fait différentes collaborations, il y a une équipe de 5 personnes, et après il peut y avoir d'autres collaborations. Qu'est-ce que vous faites ici?
On répète ici à la maison de quartier de l'île de Nantes. On nous a proposé de participer au projet. Et,
Qu'est-ce que vous en avez fait de cette idée, de cette proposition? On vous propose des morceaux, vous faites ce que vous voulez. Il y a juste ce thème de la nature, vous allez les choisir dans des œuvres qui sont jouées pendant la folle journée. Comment vous en êtes arrivé à ce qu'on vient d'entendre?
Suite à cette proposition, j'ai regardé un petit peu tous les compositeurs qui étaient nommés ou qui allaient être représentés durant ce festival. Et j'affectionne tout particulièrement en fait Jean-Philippe Rameau. Ses pièces pour clavecin, jeux par Scott Ross, je les aime énormément, quoi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup écouté. Donc on a décidé ensemble de reprendre un morceau qui s'appelle Le Rappel des Oiseaux de Jean-Philippe Rameau, en reprenant uniquement la partie de clavecin, la réadaptant à la basse, enfin on l'a complètement réarrangée, repensée. La thématique reste par contre la même, puisque ça parle un peu de... C'est une métaphore un peu avec la migration des oiseaux. C'est un morceau qui s'est imposé à nous assez facilement.
C'est vous qui avez écrit les textes?
Oui, oui, c'est exact. Oui, parce que je chante, donc... J'ai pas l'habitude d'écrire quelque chose et de le chanter après. Je chante d'abord quelque chose qui ressemble à du yaourt, par exemple. C'est très bon. Et après, j'écris dessus et voilà. C'est naturel.
Et vous les connaissiez, ces pièces pour clavecin de Jean-Philippe Rameau? Est-ce que ça vous a fait changer de regard sur ces œuvres-là, sur ce répertoire-là classique?
C'est vrai que j'aime la musique classique, mais j'en écoute très peu, en fait. Je suis ouverte à toute proposition, en termes de musique. Donc, voilà.
Non, j'ai pas l'impression.
Ah non, le morceau est tellement court.
Ouais, c'est clair.
On n'a pas le temps de s'ennuyer en fait.
Après, peut-être qu'on peut songer à une introduction plus longue, tu vois.
Peux faire une intro à l'archer sinon. Pourquoi pas? Pour changer.
Vous avez le loisir, si vous voulez, de rallonger celui-là.
Ouais, mais je pense qu'un pont vachement plus. Ouais. Tu changes complètement d'univers, limite.
De tempo, de tonalité,
tu changes, pourquoi pas, ouais, tu changes de tempo, tu changes de...
une mélodie qui...
Au lieu que ça soit hyper, parce que là c'est hyper rythmé. Faire un truc vraiment...
Après, il faudrait qu'on fasse un clin d'œil à un autre compositeur.
Vous n'êtes pas obligé non plus. À une autre œuvre de Jean-Philippe Rameau.
Stéphane Auger, coordinateur de l'action culturelle à l'Accord.
Qu'est-ce que c'est l'Accord ?
Eh bien, l'Accord, c'est une association qui dépend de la ville de Nantes et qui gère l'ensemble des maisons de quartier, centres socioculturels de la ville, c'est-à-dire 27 équipements, 700 salariés, donc une grosse structure. Ces ateliers de transcription musicale, comme on les appelle, sont nés d'une idée de René Martin, directeur artistique de la Folle Journée, qui a eu connaissance des locaux musiques qui sont dans les maisons de quartier de l'Accord, des salles de répétition, d'enregistrement, qui sont mis à disposition pour les jeunes musiciens amateurs de la ville.
Depuis combien de temps ?
Ben, on fête cette année nos 10 ans. Il y a des groupes de rap, il y a des groupes de hip-hop, de pop, de jazz, de rock, enfin tous les genres musicaux. Et les animateurs qui sont responsables des locaux proposent tout simplement au groupe de participer au projet, un projet qui commence octobre, novembre, pour s'achever lors de la Folle Journée.
Avec un concert qui est donné dans une des grandes salles de la
cité. Le challenge pour ces groupes-là, c'est d'abord un concert dans la salle 800 à la Cité des Congrès le premier jour de l'événement, de la Folle Journée, et puis après ce qu'on appelle une mini-tournée sur les équipements de la ville pour les Nantais, en fin de compte.
La truite de Franz Schubert, revue et corrigée en reggae. Vous l'aurez reconnu, Dominique, par le YB's. C'est le groupe issu du pôle de musiques actuelles de l'école de musique de Saint-Sébastien-sur-Loire. Ça vous a plu ?
Oui, je trouve ça pas mal.
Le concert de ces ateliers de transcription musicale de jeunes musiciens amateurs, c'était mercredi soir, donc c'est fini, c'était la Cité Congrès de Nantes. Mais il y en a un autre ce soir à Nantes, au centre socioculturel de Bellevue, c'est un quartier dans le nord de la ville, avec en première partie un musicien classique, figurez-vous, le pianiste Tanguy de Villancourt. Alors vous pourrez entendre un autre groupe pour ce concert, lors de ce concert, que ce qu'on a entendu dans ce reportage. C'est le groupe Yola, c'est la classe de musique actuelle du Conservatoire de Nantes. Et parmi leurs transcriptions, je vous propose d'écouter ceci, essayez de reconnaître, tiens. I'm like the other animals, taking away to my disgrace. I'm kicking out from my home space. The winds blow, but I can't fit its embrace. Embrace.
embrace. Slowly seeing the world, I don't know. See the weather changing a second and keep it on. A lot of functions on our phone. We desert by a fiction anymore. Can see the world screaming help and still produce until the end. Are we desert by yourself? We've created a fiction, so take it out. So take it out. So take it out.
Aquarium, ça.
Bravo, Kenny. Aquarium du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, mais à la sauce Yola, qui est donc le groupe issu de la classe de musiques actuelles du Conservatoire de Nantes. Nantes.
Merci Jean-Baptiste et on vous retrouve toute la journée.
À tout à l'heure.
Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
chronique de la Maison Ronde, vous l'avez dit. Mais comme la nature, le thème de la folle journée de Nantes est très riche, je vais tenter de réaliser un grand écart d'ouest en est. Un pied dans la nature du Palais des Congrès de Nantes et l'autre à la Maison de la Radio à Paris, où a débuté hier soir le festival Présence.
Pour bien faire, il faudrait aussi ajouter un autre pied en Italie, non ?
Oui, en effet, puisque cette année, le festival de musique contemporaine de la Maison de la Radio, le festival Présence, est dédié à la musique italienne, Oggi l'Italia. Heureusement, la musique n'a pas de frontières. On écoute ici un extrait de Due notturni con figura, une nuit submergée, la lumière ne se réfléchit plus nulle part. Souvent, la musique d'aujourd'hui se référant à la nature est pleine d'atmosphère, d'étirement, d'effets. Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de la traduction sonore des sensations du compositeur, mais en tout cas, cela nous donne des sensations. Et ici, la nuit d'Ivan Fedele, sombre, très sombre, envahit progressivement l'espace avec son mystère. C'est un peu comme si elle se dévoilait à nos oreilles. Et puisque nous sommes dans la nuit épaisse, voici un satellite qui gravite dans la galaxie. On change complètement d'esthétique et d'époque d'ailleurs. Ivan Fedele, nous étions en 2007 et ici avec cette Serenata per un satellite de Bruno Maderna, nous plongeons dans l'avant-garde des années 60. La musique scintille de mille fragmentations, ça fourmille.
Le Contempo Art Ensemble, dirigé par Mauro Secanti, interprétait cette Serenata per un satellite de Bruno Maderna, une œuvre qui sera d'ailleurs donnée jeudi prochain, le 11 février à 20h, par l'Orchestre National d'Île-de-France, à l'auditorium de la Maison de la Radio.
L'univers traversé par un satellite, l'infiniment grand de Bruno Maderna. Et avec Marco Stroppa, c'est l'infiniment petit. Un monde sonore, non pas microscopique, mais microphonique, je suppose, que Stroppa a grandi. Et dans son concerto pour piano et orchestre, notamment, qui s'intitule « Upon a blade of grass », sur un brin d'herbe, le piano, ce serait le brin d'herbe, et l'orchestre, la rosée. L'orchestre provient du piano, il le reflète, comme les gouttes de pluie qui ont un effet loupe. Et ça et là, vous allez l'entendre, il y a des éclaboussures. Pierre-Laurent Aymard, qui interprète ici un extrait de Open a Blade of Grass avec Peter Udvosh, qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et parmi les jeunes compositeurs italiens, il y a également Francesco Filidei, qui, lui, cherche à déshabiller le son très souvent dans ses œuvres, c'est-à-dire qu'il le dépouille. Filidei cite parfois aussi les compositeurs qui ont fait l'histoire de son pays. Alors, je vais vous laisser deviner de quelle citation il s'agit ici. L'œuvre originale est donnée à peu près une dizaine de fois à la folle journée de Nantes. Vous y êtes, Dominique, je suis sûre.
Oui, j'ai fini par y être. Hein. Il y a un petit peu de Vivaldi qui traîne, non?
Un peu de Vivaldi, oui. Un peu de quatre saisons, même. Le concertino d'autunno de Francesco Filidei. Francesco Filidei, qui est un élève de Salvatore Chiarino, on perçoit la filiation, une sorte de quête du silence dans la musique, et puis également le goût de la citation. Et ici, nous sommes à Venise, dans la brume, sans doute, on entend un chant sorti de la lagune comme un fantôme, inspiré de Mozart, cet extrait de la suite Asperne, elle-même inspirée de Henry James.
L'ensemble Recherche et la soprano Petra Hoffmann étaient les interprètes de cette Asperne suite, la Passeggiata de Salvatore Chiarino.
Chiarino, Ivan Fedele, Bruno Maderna, Marco Stroppa, Francesco Filidei. La musique de tous ces compositeurs est donnée au festival Présence qui a débuté hier à la Maison de la Radio. C'est tous les jours jusqu'au 14 février. Ça s'annonce parfois bucolique et pastoral, comme ici à Nantes. Et vous retrouvez toutes les informations sur le site maisondelaradio.fr.
Merci Marie et à la semaine prochaine.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité.
Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Alors Jean-Yves, gentiment, vous êtes là depuis 7h30 ce matin.
Vous avez vu ça?
Incroyable. On peut peut-être dire un mot de l'archive qu'on a entendu tout à l'heure et que nous n'avons pas évoqué.
Oui, alors c'était Am Schönen Blauen Donau, le beau Danube bleu que vous avez reconnu.
Quel accent.
Joué par un des trois grands orchestres de la Vienne de cette époque-là. Il y avait l'orchestre Johann Strauss, il y avait l'orchestre Lanner et il y avait le Drescher Orchester. Et c'était donc le Drescher Orchester. Et ce qui est un petit peu amusant, c'est de voir qu'en fait, ça détruit le mythe, cet enregistrement. Ils sont pas ensemble, ils jouent un peu faux. Bon, mais c'était de la musique qu'on jouait dans les cafés aussi. C'est pas forcément Sissi qui dansait là-dessus tout le temps. Donc, il faut peut-être remettre un peu les choses en place.
Alors, en ce qui concerne ce monde fabuleux des archives de ce matin, cette nature vous a inspiré finalement une figure féminine.
Oui, la femme oiseau s'est imposée à mes yeux. Et si vous avez eu le temps de jeter un petit coup d'œil dans l'ouvrage de Emmanuel Rebel, on voit très bien que l'imitation de la voix de l'oiseau par la cantatrice est un des thèmes récurrents qui traverse toutes les musiques, la musique baroque, la musique du 18e et la musique du 19e siècle. Et comme si j'avais lu le livre avant qu'il ne soit imprimé.
Livre d'Emmanuel Rebel, qui est donc sorti concernant la thématique de la folle journée 2016.
Eh bien, je me suis inspiré de ça. Alors, je vous propose, tout à l'heure, nous parlions avec Patrick Barbier de Handel et de Rome. Eh bien, nous allons y retourner avec Il Pensiero, le fameux air Sweet Birds, donc les 12 oiseaux qui font un bruit si agréable. Et c'est Dame Nelly Melba qui va nous chanter ça en 1907.
Ça n'est pas rien.
Ça n'est pas rien, mais vous verrez, c'est pas grand-chose comparé à ce qu'on a fait depuis avec la redécouverte de l'art de chanter la musique baroque. Thank you.
On souffre un peu pour la pauvre Nelly Melba.
Mais oui, il faut dire qu'elle l'idée, elle n'était pas du tout préparée à chanter ce genre de musique. Donc il y a eu un petit revival, comme vous le savez, à la Belle Époque pour ces compositeurs et ces grands airs issus de la musique baroque. Et elle s'est jetée là-dedans à corps perdu.
C'est elle un n'aurait disque pas dû.
Aujourd'hui, on dit qu'elle n'aurait pas dû. Mais à l'époque, elle a vendu incroyablement cette face. Ah, un monoface a été vendu en grand nombre. Il n'est pas très difficile de le trouver. Et même, il a été labellisé Melba Records.
Mais je vois ça. Donc disque Victor Melba Records, voilà, Camden.
Voilà, c'était la grande star qui s'est adonnée au grand air. Alors aujourd'hui, ça nous fait un petit peu sourire, mais elle fait partie de celles qui ont permis de sortir cette musique de l'ombre.
Alors celle d'après.
Alors celle d'après, je l'adore.
Bah oui, bon, alors, vous
interdit
avez compris.
Interdit de sourire. C'est Amilita Galligourchi, c'est une soprano coloratour tout à fait éblouissante de la première moitié du XXe siècle, enfin le premier quart du XXe siècle, et elle chante Zémir et Azor. Déjà, rien que ça, c'est de la belle musique, c'est du Grétry, c'était un des compositeurs favoris de Marie-Antoinette. Et alors, dans Zémir et Azor, il y a le petit air de la fauvette, la reine de la ramée, qui s'occupe de tout, de ses petits. Elle est mignonne, elle est adorable, elle est au moins aussi jolie que la brave Amilita.
Thank you.
Alors là, vraiment, je comprends.
Ah, ça, c'est de la musique.
Oui, ça, c'est de la musique. Ça, c'est de la voix.
Ah oui, c'est de la voix. C'est une artiste formidable. Injustement dédaignée. Amelita Galli-Courcy. Grande carrière internationale, évidemment, portée au pinacle à New York.
Voilà. Et avec elle, quand même, Clément Barone et flûte solo, orchestre sous la direction de Rosario Bordon, un disque HMV.
His Master's Voice.
His Master's Voice. Non, mais de jolies flûtistes aussi, très bien enregistrées.
Ah 1927. Ben oui, 1927, on a droit au micro. Contrairement au suivant, où nous n'avons plus droit au micro, nous retournons vers de la musique acoustique avec Blanche Harral, qui était une grande cantatrice née en Belgique et qui, elle aussi, a connu la consécration au travers du tournoi international et à New York en particulier, et qui nous livre cet air charmant de la chanson du Rossignol dans Les Noces de Janeille de Victor Massé, où elle confie sa peine et ses tourments à la nuit et au Rossignol.
Un petit côté performance quand même, non ?
Ah ben oui, il s'agit de faire plus beau, plus fort, plus grand que l'oiseau lui-même.
Oui, c'est
ça. Donc on va toujours chercher à se dépasser.
Donc c'était Blanche Harral.
Voilà.
Avec orchestre. J'aime beaucoup avec orchestre, toujours.
On ne sait toujours pas.
Oui, et c'est un disque gramophone Camden 1909.
Oui.
Ce qui, par rapport au premier qu'on a entendu, était d'une qualité assez étonnante.
Oui, c'est curieux. Ça dépend aussi de l'ordre du tirage. Ça dépend de la qualité de la pâte. Et là, je dois dire, on a une bonne chance.
Merci Jean-Yves Pratt.
À bientôt.
À bientôt. Ce matin, nous avons la chance d'avoir une de nos auditrices, peut-être, en tout cas une personne qui fréquente les Folles Journées de Nantes et qui est venue nous rejoindre en direct. Bonjour Hélène Novotine, comment on prononce ?
Novotine,
bonjour. Hélène, merci de vous être levée si tôt. De toute façon, vous allez, je crois, au concert après.
Oui, on a le premier concert à 9h15 aujourd'hui.
Alors Hélène, vous avez quel âge maintenant ?
J'ai 28 ans.
28 ans, et ça fait un petit moment que vous venez aux Folles Journées.
Ça fait une bonne quinzaine d'années que je viens aux Folles Journées.
Alors vous nous racontiez en aparté hors micro à l'instant que c'était toute une expédition autrefois pour prendre des places pour venir à la Folle Journée.
Oui, mon père se levait les premières années à 5h du matin, il a commencé à y aller la veille, il a commencé à y aller avec des collègues, juste pour qu'on ait les meilleures places, qu'on ait tous les concerts qu'on voulait, qu'on puisse vraiment voir tout ce qu'on avait prévu. Et après, évidemment, il y a le week-end, l'organisation, se lever tôt, les sandwichs, mais c'est un...
Ça fait partie du plaisir ?
Oui, ça fait vraiment partie du plaisir.
Alors, Hélène, vous nous avez écrit un petit texte dans lequel vous évoquez ces souvenirs. Ces souvenirs, vous allez les lire. Et ça tombe bien parce qu'une des premières musiques, finalement, qui vous est marquée, ce sont les 4 saisons de Vivaldi.
Mon premier souvenir des Folles Journées, c'était il y a plus de 10 ans. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Mon premier concert de musique classique, c'était les 4 saisons de Vivaldi, avec mon père, et ça a été quelque chose que j'ai aimé tout de suite. Je connaissais déjà un peu la musique classique, je regardais Fantasia, j'étais allée écouter Pierre et le Loup avec mon école, mais le concert en vrai, voir les musiciens, les fils de l'archet qui pendaient à la fin du morceau à cause de la passion du musicien, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Puis l'année d'après, j'ai demandé à y retourner. Et puis y retourner l'année suivante. Et puis encore une fois. Et d'un concert, on est passé à 2, puis 3, puis beaucoup. Et maintenant, j'habite à Paris, je travaille là-bas, mais j'envisagerai jamais de manquer une Folle Journée. Surtout que depuis le temps que j'y vais avec mon père, c'est une grande tradition. Décennie de Folles Journées, j'ai vu beaucoup de choses. Des choses que j'ai adorées, des choses que j'ai aimées et aussi des choses qui parlent un peu moins, mais c'est quand même assez rare les choses qui parlent un peu moins. Je ne peux vraiment pas choisir un seul concert, c'est pas possible, mais j'ai quand même un top 3. Le premier, c'est les 4 saisons de Vivaldi, encore, et il me semble qu'on doit encore les revoir cette année. Mais c'était un concert par Europa Galante et leur meneur Fabio Biondi. Jamais, jamais entendu Vivaldi comme ça. La vitesse d'exécution sur mon mouvement préféré, c'était juste 2 fois plus rapide que mon CD, c'était incroyable. Et c'est la première fois où je suis sortie d'un concert et où j'ai traîné mon père à la boutique pour acheter le CD, là, maintenant, tout de suite. Et on a eu la chance de l'avoir dédicacé. C'est aussi ça, les folles journées, on peut avoir des dédicaces et c'était vraiment incroyable. Le Boléro de Ravel, l'année dernière, il était assez sublime pour être dans les superlatifs. On l'avait déjà vu il y a quelques années, mais celui de l'année dernière, il était vraiment magnifique. Et il y a quelques années, quand Brigitte Langerer était encore en vie, on avait eu un duo de piano avec Boris Berezovsky et Brigitte Langerer avec un orchestre derrière qui était vraiment très bon. On sentait vraiment la complicité et puis c'est des interprètes qui étaient vraiment, vraiment incroyables. Mais si je dois en choisir une seule de folle journée, mes préférées, c'était celle sur l'Amérique en 2014. C'était beaucoup de concerts que j'avais jamais vus avant. Il y avait de la musique de film et il y avait l'orchestre de Paul Béarn, qui est un chef d'orchestre exceptionnel, qui jouait America de West Side Story. Et c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs.
Je les vois tous les ans, j'ai l'impression de les connaître.
Ou des artistes d'exception comme Boris Berezovsky, dont on a déjà parlé, ou la violoniste Patricia Kopaczynskaya, qui joue pieds nus sur scène. J'ai jamais vu ça. Et qui est tellement habitée par sa musique qu'on a l'impression qu'elle est toute seule avec son violon. J'ai vu des solistes virtuoses, j'ai entendu de la musique de film, des chœurs russes, des chœurs anglais, un accordéoniste qui joue Bach. Je ne pensais pas que c'était possible, mais c'était très très bien. De la musique de jazz. Et cette année, on a 9 concerts qui vont de Beethoven à des tambours japonais. Donc j'envisagerais vraiment jamais de ne plus venir aux folles journées. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et quand ma nièce sera assez grande, on l'amènera aussi. Mais bon, comme elle a 3 mois, on va attendre un tout petit peu.
Pour illustrer le souvenir musical d'Hélène Novoxine, que je remercie d'être venue, nous avons entendu un extrait des 4 saisons de Vivaldi par l'Europa Galante que dirige Fabio Biondi, la Liebeslieder Walzer de Brahms jouée par Brigitte Angerer et Boris Berezovsky. Et là, nous écoutons actuellement une pièce lyrique de Grieg jouée par Élodie Soulard à l'accordéon. Alors, si vous êtes à Paris, il y a des places à gagner pour le concert de la Saint-Valentin dimanche 14 février à 16h à l'auditorium de la Maison de la Radio, un concert consacré totalement à l'amour, une balade au pays de la musique américaine avec Gershwin, Cole Porter, Sinatra ou encore Irving Berlin. Les interprètes, ce seront le crooner anglais Matthew Ford, les jeunes filles de la maîtrise de Radio France avec un trio contrebasse, piano, percussion, dans l'ordre Jeremy Brown, Graham Harvey et Matt Skelton. Et cerise sur le gâteau, Sophie Janin, qui dirige le concert, vous demande de nous envoyer vos plus belles lettres d'amour qui seront lues pendant le concert, anonymement si vous préférez. Alors donc, nous attendons vos courriers. N'hésitez pas à aller sur le site de Fabrication Maison, soit pour gagner des places pour ce concert, soit pour nous envoyer une lettre d'amour, ou soit les deux. Voilà, C'est la fin de notre émission, réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, de Georges Thau, d'Elisabeth Gornet, d'Hélène Nicolai. Toute l'équipe était au complet ici à Nantes pour ces folles journées. C'était une émission qui, ce matin, était en direct.